Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au menu aujourd'hui, on va décrypter les principales mesures qui ont été annoncées lors de la présentation du budget fédéral mardi dernier. On ira aussi à la rencontre du musicien Nicolas Fleury. Il est français, est également membre du Melbourne Symphony Orchestra. Et puis direction ensuite Sydney pour faire le point sur les activités à venir à l'Alliance française. Et puis bien sûr, comme toujours, on fera aussi le point sur l'actualité sportive. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va. Les principales actualités de ce jeudi 13 mai 2021. L'Australie vient de signer un contrat avec Moderna pour la livraison de 25 millions de doses de vaccins. La majorité d'entre elles arriveront l'année prochaine, en 2022. Au Proche-Orient, vers une nouvelle guerre israélo-palestinienne, plus de 70 personnes sont mortes depuis le début de la semaine dans des affrontements entre le Hamas d'un côté et l'armée israélienne de l'autre. Et en France, Airbus et Air France rattrapés par le crash du vol AF447 entre Rio et Paris. L'avionneur et la compagnie aérienne sont poursuivis en justice pour l'homicide involontaire des 228 passagers de ce vol. Et donc, 25 millions de doses du vaccin Moderna, c'est la commande que vient de passer le gouvernement australien auprès de ce laboratoire américain. Ce vaccin qui doit au préalable recevoir l'approbation de l'agence australienne du médicament, la TGA. On devrait en recevoir un premier million de doses au mois de septembre et 9 millions de plus d'ici la fin de l'année. Le reste, 15 millions de doses, sera lui livré dans le courant de l'année 2022. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, en a fait l'annonce ce matin. Il a également laissé entendre que ces vaccins à ARN messager pourraient être en partie fabriqués en Australie.
Is the next stage of future-proofing and of preparing for the future, focused primarily on our ability for 2022 to have a booster and variant strategy. The second element of it is that Christian Porter will shortly announce the commencement for mRNA production in Australia. And then thirdly, as Moderna has noted, they are in active discussion with the Australian government as to the possibility of production in Australia.
Et cette annonce, elle intervient alors que la campagne de vaccination en Australie avance à un rythme particulièrement lent. Par ailleurs, le gouvernement a confirmé mardi, lors de la présentation du budget, qu'il n'envisageait pas de rouvrir les frontières avant la mi-2022. Alors, est-ce que ça peut permettre d'accélérer un petit peu les choses? Brendan Murphy, pour sa part en tout cas, Brendan Murphy, c'est le numéro 2 du ministère de la Santé, a fait valoir qu'aucune preuve scientifique ne contre-indique pour l'instant l'administration de deux doses de vaccins différents contre le coronavirus. On l'écoute.
We think there is no reason why you can't mix and match vaccines. The trial data is not out yet. There's some trials being done in the UK, looking at AstraZeneca first dose and Pfizer or Moderna second dose. There's no good scientific reason why you can't boost with one and then have another vaccine later. And in fact, there may be some benefit in doing that. There's still emerging data in that space, but this investment is assuming that that will be possible, and we have no reason to think it won't be.
Et alors, je vous le disais, la fermeture des frontières pour l'instant se poursuit. Néanmoins, l'État de Nouvelle-Galles du Sud travaille très activement pour permettre le retour des étudiants étrangers dont l'absence a pesé très lourdement sur les finances des universités. Alors, cette proposition, Scott Morrison y a répondu ce matin sur la radio 2GB plutôt favorablement. En tout cas, il a indiqué qu'il travaillerait avec l'État de Nouvelle-Galles du Sud pour que ce projet se concrétise. Mais il a aussi prévenu qu'il allait sans doute falloir attendre encore un peu.
And there's still a long way from landing this, I should stress, at this point. But it's something that we're encouraging of, but it's got to be done safely. And we've got to be able to do it in a way that obviously doesn't risk the great success we've had.
Et Scott Morrison, toujours deux jours après la présentation du budget fédéral, le Premier ministre a défendu une mesure controversée prévue par cette nouvelle loi de finances. Selon cette mesure, donc, les migrants nouvellement arrivés en Australie devront attendre 4 années avant de pouvoir bénéficier de toute forme d'assistance sociale ou financière, comme la sécurité sociale, les pensions de retraite ou encore les allocations de chômage. Une coupe qui devrait permettre au gouvernement d'économiser plus de 670 millions de dollars au cours des 5 prochaines années et qui doit entrer en vigueur en début d'année prochaine. Cette mesure, Scott Morrison l'a défendue au micro de nos confrères de SBS News.
We're taking and giving greater support to those who are here right now, those who are already in the country and those who can continue to make a very important contribution. And that's all part of the plan. It's all part of the plan to ensure that we secure this COVID recovery that Australia is going through right now.
Et un dernier mot sur l'actualité du jour en Australie. Aucun nouveau cas de coronavirus n'a été détecté aujourd'hui, ni en Nouvelle-Galles du Sud, ni dans l'état du Victoria, où un homme avait été testé positif mardi dernier. Les tensions ravivées entre Israël et la Palestine ont déjà fait plus de 70 morts depuis le début de la semaine. Plus de 1500 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers l'état hébreu. État hébreu dont l'armée a répliqué pour sa part avec une série de bombardements sur le territoire palestinien. Dans ce climat extrêmement tendu, l'état d'urgence a été décrété dans la ville de Lod en Israël après des affrontements sur place entre juifs et arabes. Sur place, le reportage de Sami Boukhelifa pour Radio France Internationale.
Vitrines brisées, carcasses de voitures calcinées, rues tapissées de pierres, certains quartiers de la ville de Lod ont été saccagés durant les affrontements de la nuit. Tout débute par une simple manifestation de la communauté arabe israélienne qui souhaite apporter son soutien aux Palestiniens sous occupation et aux Gazaouis qui subissent les bombardements israéliens. Comme souvent dans ce genre de situation, deux versions s'opposent. Il y a celle des officiels israéliens. Le président Reuven Rivlin va même jusqu'à parler de pogrom, de foule arabe assoiffée de sang et s'attaquant à la communauté juive. Et puis, il y a l'autre version, celle de la minorité arabe de Lod. Selon des témoignages recueillis aujourd'hui, des colons israéliens protégés par la police sont venus exprès de Cisjordanie occupée pour empêcher la manifestation arabe. Des affrontements ont alors opposé les uns et les autres et la situation a dégénéré. Lundi, un colon avait déjà abattu un arabe israélien à Lod. Les arabes israéliens, pourtant citoyens de l'État hébreu, dénoncent l'injustice qu'ils subissent au quotidien. Selon eux, Israël est une démocratie à deux vitesses. Sami Boukhelifa de retour de Lod. Jérusalem, RE.
Et c'est donc dans ce contexte extrêmement volatile que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris la parole hier soir. Il a appelé les deux parties à cesser les violences.
This is something we cannot accept. It's anarchy. Nothing justifies this. And I will tell you more. Nothing justifies the lynching of Arabs by Jews. And nothing justifies the lynching of Jews by Arabs. We will not tolerate this. This violence is not us. We will return administration and governments to the cities of Israel everywhere. In all cities, in mixed cities, in Jewish cities, everywhere.
Et pour sa part, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'est lui adressé directement aux États-Unis, mais aussi à l'État hébreu, à qui il a demandé de cesser d'occuper les territoires palestiniens.
I address my words specifically to America and to Israel. Enough is enough. Leave us. We will remain thorns in your eyes and we will not leave our homeland. We will not leave our country. End your occupation of our land today and not tomorrow.
Aux États-Unis, la députée Liz Cheney, fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, vient d'être exclue du Parti républicain, dont elle était pourtant l'un des membres les plus éminents, en raison de ses critiques répétées à l'égard de Donald Trump. L'ancien président, qui avait appelé personnellement à sa révocation, a donc obtenu gain de cause. Mais loin de s'avouer vaincu, Liz Cheney assure qu'elle fera tout pour empêcher Donald Trump de retourner un jour à la Maison-Blanche. Écoutez sa déclaration.
Comme je l'ai dit hier soir et répété à l'instant devant mes collègues, je suis absolument convaincue que nous devons aller de l'avant en nous appuyant sur la vérité. Nous ne pouvons à la fois concilier le mensonge et la Constitution. La nation a besoin d'un parti républicain fort. La nation a besoin d'un parti fondé sur les principes fondamentaux du conservatisme. Je m'engage à m'assurer que le parti avancera de cette manière et je prévois de mener le combat pour cela. Je ferai tout ce que je peux pour que l'ancien président ne s'approche plus jamais du bureau ovale. Nous avons vu les dangers que ses discours continuent de susciter. Nous avons vu son manque de respect et de dévouement pour la Constitution. Et je pense qu'il est très important que, quelle que soit la personne que nous élisions, ce soit quelqu'un de fidèle à la Constitution.
Avec un léger mieux sur le front de la pandémie de coronavirus, l'Europe se prépare tout doucement à l'approche de l'été et envisage de lever certaines restrictions pour permettre aux gens de partir en vacances. Les Allemands, par exemple, pourront aller en Italie, en Grèce ou encore en Espagne sans avoir besoin de se mettre à l'isolement à leur retour en Allemagne. Ils devront néanmoins quand même produire un test PCR négatif. Et l'autre pays qui attend impatiemment la reprise du tourisme, c'est la Grèce. La saison touristique débute officiellement ce week-end dans ce pays où l'industrie du tourisme représente plus de 20% de l'économie. Tout récemment, les terrasses de café ont rouvert, un peu comme un galop d'essai avant l'arrivée des touristes étrangers. Reportage sur l'île d'Hydra, au large d'Athènes, avec Joël Bronner pour RFI.
We see more the cats than the people in Hydra.
Pendant les 6 derniers mois de confinement, Katerina Neofitou l'assure, en plaisantant à peine, elle a rencontré dans les rues plus de chats que d'êtres humains. Pour la copropriétaire d'un des principaux cafés du port de Hydra, la récente réouverture des terrasses offre donc un bol d'air salutaire.
Nous pouvons discuter ensemble comme on le fait à présent, nous asseoir à une table, parler de tout et de rien et profiter simplement de la vue sur la mer, du soleil. Avec cette réouverture, tout a changé dans nos esprits et nos cœurs. Les gens sont plus heureux qu'avant. Il n'y a pas encore grand monde, mais pour nous, ce changement est déjà fondamental.
En attendant l'arrivée espérée des touristes, dont l'économie de Hydra dépend à près de 90%, il s'agit aussi de retrouver le goût des choses simples, comme le souligne Cosma Savriadis, chef de son restaurant de cuisine méditerranéenne, qui propose fruits de mer et poissons frais.
L'essentiel, ce n'est pas le restaurant, l'argent ou le tourisme. Le plus important, je crois, c'est de retrouver nos vies, prendre nos amis dans nos bras, sortir ensemble, aller danser, parce que c'est cela la vie, mon ami.
Et à Hydra, c'est cette vie, plus animée, qui reprend progressivement ses droits, au grand soulagement de ses quelques 2000 habitants. Joël Brunner, de retour de Hydra, RFI.
C'était il y a quasiment 12 ans, le 1er juin 2009, le vol Air France Rio-Paris se crachait dans l'océan Atlantique en raison d'une défaillance technique qui aura coûté la vie aux 228 passagers à bord. À Paris, la cour d'appel vient d'annoncer l'ouverture d'un procès à l'encontre d'Air France et d'Airbus pour homicide involontaire. Les deux entreprises ont déjà prévu de se pourvoir en cassation. On écoute les explications de Laura Martel pour RFI.
La Cour d'appel de Paris a ordonné le renvoi d'Air France et Airbus devant le tribunal correctionnel pour leurs responsabilités indirectes présumées dans le drame. Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris s'était abîmé au milieu de l'Atlantique. Les pilotes, désorientés par une défaillance technique en traversant une zone météorologique instable, n'avaient pu rattraper le décrochage de l'A330. En août 2019, après 10 ans d'une enquête marquée par des batailles d'experts, les juges d'instruction du pôle accident collectif du tribunal de Paris avait rendu un non-lieu général, arguant que les investigations n'avaient pas conduit à caractériser un manquement fautif d'Airbus ou d'Air France. Mais le parquet général, à l'appui des parties civiles, avait lui demandé des poursuites car il estimait au contraire que les causes indirectes du crash étaient imputables aux deux entreprises. Air France pour s'être abstenue de mettre en œuvre la formation et l'information des équipages nécessaires, tandis qu'Airbus avait, selon lui, sous-estimé la gravité des défaillances des sondes de vitesse incriminées dans le décrochage et n'avait pas suffisamment agi pour corriger ce défaut dangereux. Le jugement de la cour d'appel a été accueilli avec soulagement par les proches des victimes, mais la tenue d'un procès reste hypothétique puisque les deux entreprises ont déjà annoncé leur pourvoi en cassation pour contester cette décision.
Allez, on revient en Australie pour la fin de ce journal. Comme toujours, on jette un petit coup d'œil à la météo de ce jeudi. Il fait 21 degrés à Perth, 17 degrés à Adélaïde, 18 degrés à Melbourne où on attend des averses cet après-midi. En revanche, grand soleil à Sydney où il fait 23 degrés, 26 degrés et des éclaircies attendues dans la journée à Brisbane, 30 degrés à Cairns et jusqu'à 34 degrés à Darwin où il fait très beau aujourd'hui.
Thank you. mort, je vais tracer ma route. C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive, y'a pas de débat, c'est moi la pépite. C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive, y'a pas de débat, c'est moi la pépite.
On vient d'écouter l'un des derniers morceaux d'Aya Nakamura, ici en duo avec le DJ Major Lazer, et le titre de cette chanson, c'est « C'est cuit ». On passe maintenant à la suite, c'est-à-dire le magazine des sports. Pour cela, on retrouve tout de suite Jean-Noël Ducasse.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot, la demi-finale de la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain qui a battu Montpellier au tir au but 6-5. Le Paris Saint-Germain qui va en finale, soit contre Monaco ou Rumilly-Valière. Ces deux équipes joueront ce soir. En Angleterre, Manchester City est couronné champion d'Angleterre après la défaite de Manchester United mardi face à Leicester 2-1. Explication de Fred Sutopour. RFI.
Manchester City n'atteindra pas les 100 points comme en 2018, ni même les 98 points de 2019. Au mieux, les Citizens boucleront l'exercice avec 92 points. Peu importe, le titre est là, le troisième en 4 ans pour l'équipe de Pep Guardiola. La trajectoire a été un peu moins limpide qu'à l'accoutumée. Un début de championnat poussif, après 8 matchs, au soir d'une défaite face à Tottenham en novembre, City occupait une peu reluisante 13e place. Dans cette saison jouée à huis clos, au rythme de la pandémie, il a fallu composer avec les aléas, les cas positifs dans l'effectif. Comme les autres clubs, City n'a pas été épargné, mais au cœur de l'hiver, pendant que ses rivaux, Tottenham, Liverpool, Leicester, United, craquaient un à un, les coéquipiers de Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez ont mis le turbo. Une impressionnante série de 21 victoires d'affilée, dont 15 en championnat. Quand le printemps est arrivé, la première ligue était jouée, Manchester City caracolé, seul en tête. Une défense de fer autour de Ruben Dias, le portugais. Seul le Chelsea de Thomas Tuchel semble avoir trouvé la faille pour faire chuter les Citizens deux fois depuis avril. Les deux clubs ont rendez-vous le 29 mai pour l'explication ultime, la finale de la Ligue des Champions.
Et les supporters de Manchester City sont ravis. On écoute cette anglaise.
This is how it feels to be City. This is how it feels to be small. No, it feels great. It feels absolutely amazing. Obviously, it's not the first time in recent years, but it's great. Yeah, it's just euphoric after the year everybody's had. It's so good to have a little bit of joy back in our lives again. So, thank you, Pep. Thank you, Manchester City.
Hier, un match de la 36e journée avec Chelsea battu par Arsenal 1-0. On jouait. En Espagne également, 36e journée, l'Atlético de Madrid, premier au classement, a battu la Real Sociedad, score 2-1. Et Séville, à la 4e place, s'est imposé contre Valence, 1-0. En Italie, la Juve de Turin vit sa pire saison et pourrait ne pas prendre part à la Ligue des Champions. Mais tout n'est pas perdu, comme nous l'explique Marie-Amélie Motte pour RFI.
La vieille dame absente de la Ligue des Champions, ce n'est pas arrivé depuis 10 ans et c'est pourtant envisageable aujourd'hui. Après 9 ans de règne sans partage sur le football italien, la Juventus Turin a perdu ce qui a longtemps fait sa force. Une identité de jeu bien définie et une solidarité sans faille entre les joueurs. Seulement 20 victoires en 35 journées et la perspective grandissante de devoir se contenter de la Ligue Europa à la rentrée. Cela constituerait une catastrophe pour les finances du club. Déjà 180 millions d'euros de pertes estimées cette saison, auxquelles devrait s'ajouter 90 millions en cas de non-qualification en Ligue des Champions. La Juve pourrait alors manquer d'argent pour payer les salaires des joueurs, à commencer par celui de Cristiano Ronaldo, estimé à une trentaine de millions d'euros annuels. Mais le vice-président Pavel Nedved a déclaré que la star portugaise resterait à Turin la saison prochaine, tout comme l'entraîneur Andrea Pirlo. Alors attention, tout n'est pas perdu, il reste 3 matchs à jouer, 3 matchs à gagner, en espérant que l'Atalanta, l'AC Milan ou Naples fassent un faux pas.
Et ce soir, la Juve jouera contre Sassuolo. On passe au tennis, les Masters 1000 de Rome avec l'Australienne Ash Barty qui est au prochain tour après sa victoire contre la Kazakh Yaroslava Shvedova. Rafael Nadal, l'Espagnol, s'est facilement qualifié pour le prochain tour aux dépens de l'Italien Jack Sinner, 7-5, 6-4. Nadal qui n'a pas dit son dernier mot et il continuerait à se battre et il sera à Roland-Garros.
There is a new generation of players that are good.
Une nouvelle génération émerge, ces joueurs sont bons, nous avons respectivement 34, 34 et 39 ans, nous vieillissons alors que les jeunes progressent constamment, je n'ai pas envie de me voiler la face, ça fait pratiquement 20 ans que nous sommes sur le circuit et aujourd'hui, une nouvelle génération remporte des tournois, c'est tout à fait normal, je l'accepte. Mais je vais continuer à me battre. À la fin du mois, il y a un grand chelem que j'aime beaucoup. Je ferai le nécessaire pour bien y figurer.
Two weeks and a half, there is another grand slam that I'd like to play. And I'm gonna fight to try to play well there.
Les organisateurs de Roland-Garros ont pris la décision hier de permettre 5000 spectateurs chaque jour pour les 10 premiers jours et ensuite un petit peu plus pour les derniers jours du tournoi, comme nous l'explique Fred Suto pour RFI.
5000 spectateurs quotidiens seront autorisés sur le site durant les 10 premiers jours du tournoi. La jauge pourra monter ensuite à plus de 10 000 avec pour le week-end des finales un écran géant installé sur le cours Suzanne Lenglen pour ceux qui ne seront pas sur le central. Gilles Moreton, le président de la fédération.
Deux objectifs majeurs. Le premier était d'accueillir le plus grand nombre de spectateurs pour avoir le spectacle le plus qualitatif possible. Mais c'était aussi garantir la sécurité sanitaire de chacun.
Cette année, il y aura aussi grande première des sessions nocturnes, mais une seule, la dernière, le 9 juin, pourra accueillir du public quand le couvre-feu passera de 21h à 23h. À partir de ce 9 juin, pour les 5 derniers jours du tournoi, les spectateurs devront présenter un pass sanitaire, conséquence du projet de loi adopté à l'Assemblée nationale. Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale de la fédération.
Ce pass sanitaire, il implique la présentation soit d'un résultat de test négatif de moins de 48 heures, soit un certificat de vaccination à jour. Et puis, la troisième option, c'est un certificat de rémission, en quelque sorte, c'est-à-dire la production d'un résultat de test positif de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois, qui est la preuve d'une infection ancienne.
Un mot de cyclisme, le Giro d'Italia, 5e étape hier, remportée par l'Australien Caleb Ewan. Et puis pour terminer, un mot de l'Euro de handball avec les quarts de finale. Allez, le Paris Saint-Germain qui s'incline face à Kiel, le club allemand, 31 à 29. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Ça, c'est le dernier titre de la reine de la musique africaine, la béninoise Angélique Kidjo, qui vient donc de nous interpréter la chanson Dignity en duo avec Yemi Alade. 13h et 29 minutes, quasiment 30. On va revenir maintenant sur le budget présenté mardi par le gouvernement australien. On analyse tout ça de plus près avec Nicolas Perpich et Jean-Noël Ducasse. Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Oui, bonjour, Jean-Noël.
Le gouvernement a annoncé dans le budget mardi des mesures pour faire baisser le taux de chômage qui existait au niveau avant la pandémie.
Oui, voilà, c'est-à-dire en dessous d'à peu près 5%. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est rallonger le Job Trainer Program pour encore 12 mois. Donc, ça veut dire qu'il y aura des dizaines de milliers de personnes, de jeunes gens en principal, qui vont être offerts des programmes d'entraînement, de nouvelles formations pour trouver des jobs dans des endroits où il y a un manque de main d'œuvre. Donc, par exemple, des endroits comme le soin des personnes âgées, dans les jardins d'enfance, le IT, etc. Donc, c'est vraiment un programme qui a été fait pour les gens entre 17 et 24 ans, les gens qui sont au chômage ou les jeunes étudiants, etc., etc. Et c'était censé s'arrêter en septembre, mais ça avait plutôt bien marché. Alors, le gouvernement a dit, bon, on va continuer ça. Donc, ça fait partie du budget, ça coûte à peu près 1 milliard de dollars, mais le plan, c'est que le taux de chômage, qui est à peu près à 5,6% actuellement, qu'ils arrivent à le faire baisser vers 4,5%. Et la trésorerie dit que si on peut faire ça, ça va aider à faire monter les salaires et le taux d'inflation qui devrait être entre 2 et 3%. Donc voilà, c'est Monsieur Feinberg, Josh Feinberg, qui a annoncé son budget mardi et dit que voilà, on veut que le taux de chômage soit en dessous de ce que c'était avant la pandémie, donc à peu près avant le début de l'année dernière. Il dit que déjà, comparé à d'autres récessions, le taux de chômage est baissé beaucoup plus vite que d'autres récessions qu'avant. Donc, ils vont payer ça un peu en coupant des programmes comme le Jobmaker Hiring Credit Program, qui n'a pas marché et qui avait coûté 4 milliards de dollars. Et c'est un programme qui était censé créer 450 000 jobs, mais en fait, ça a pour le moment seulement créé 1100 postes d'emploi. Donc, ça n'a pas trop bien marché du tout. Mais bon, ce qui a aidé aussi dans le budget, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont au chômage, qui reçoivent de l'aide du gouvernement. 105 000 personnes de moins juste en avril. Mais bon, ça, c'était aussi après la fin du programme de JobKeeper avait fini en mars. Donc, voilà, une des grandes mesures du troisième budget du trésorier Josh Frydenberg.
Et puis, il y avait aussi un plan dans le budget pour attirer les grandes compagnies mondiales et les meilleurs professionnels de l'étranger pour venir en Australie.
Voilà. Donc ici, en Australie, il y a cette phrase qui existe depuis longtemps, le « brain drain », où tous les meilleurs Australiens, les plus doués, quittent l'Australie pour aller travailler ailleurs dans le monde. Et donc, c'est un brain drain. Et là, ils essayent d'attirer les plus grosses têtes un peu partout dans le monde. C'est un programme qui va coûter 550 millions de dollars. Une façon d'encore accélérer l'économie en sortant de cette récession. Donc ils vont changer pas mal de choses. Il y aura moins de bureaucratie pour venir en Australie. Ils vont changer le système des impôts pour les étrangers qui travaillent en Australie. Et ils disent que, écoutez, on va aussi vous donner un service spécial, genre concierge, pour donner de l'avis financier aux investisseurs de l'étranger. Ça, en fait, ça va être le Australian Tax Office, le bureau des impôts australiens, qui va aider directement à faire ça. Et il y a le trésorier qui dit qu'il faut qu'on capitalise sur la situation ici en Australie avec peu de Covid et une économie qui rebondit comparée à d'autres pays qui sont en train de lutter toujours à plein fond contre la pandémie avec des confinements, etc. Il dit que c'est beaucoup plus stable ici d'un point de vue de la santé, mais aussi économiquement. Mais bon, un problème, bien sûr, c'est que les frontières de l'Australie vont rester fermées jusqu'à au moins 2022. Donc, c'est difficile. Il n'y a pas d'immigration en ce moment. Ce qu'on peut dire aussi du budget, c'est qu'on voit que là, le gouvernement de Scott Morrison, le gouvernement conservateur, a complètement changé ses priorités économiques et dans un sens politique. Avant, la droite, les Liberals voulaient toujours à tout prix éviter ou au moins minimiser la dette et les déficits. Il critiquait très fortement les travaillistes sur ce point-là. Mais là, on a vu que le gouvernement dépense des milliards et des milliards de dollars pour stimuler l'économie, avec la dette qui monte, etc. Et tout ça pour faire baisser le taux de chômage. Donc on voit par exemple 10 milliards de dollars pour des grands projets d'infrastructures autour du pays, tout ça pour stimuler l'économie, et on parle beaucoup moins du problème de dette et déficit, parce que là, la priorité, c'est de tout faire à tout prix pour stimuler l'économie à cause de l'impact énorme de cette pandémie.
Voilà, merci Nicolas pour cette analyse de l'actualité économique en Australie. Bonne journée, à bientôt.
Merci, à bonne journée.
On vient d'écouter Clara Luciani interpréter cette chanson qui s'appelle « Nu ». Vous êtes sur Radio SBS, le programme en français. Il est maintenant 13h et presque 51 minutes. On arrive dans la dernière partie de notre émission et on va prendre pour cette dernière partie la direction de l'Alliance française de Sydney et faire le point avec son directeur sur les événements prévus ce mois-ci à l'Alliance, mais aussi tirer un bilan rapide du Festival du film français. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous Philippe Osterman, le directeur de l'Alliance française de Sydney. On fait ce point quasiment tous les mois ensemble. Bonjour.
Bonjour Grégory et bonjour aux auditeurs de SBS en français.
Alors, on va commencer d'abord par le Festival du film français, déjà qui a eu lieu, mais qui s'est maintenant terminé. Ça a bien marché. Les gens avaient envie de retourner au cinéma et de voir des films français.
Alors, ça a été un engouement incroyable. L'Alliance française French Film Festival en va faire environ 170 000 entrées payantes, qui est un chiffre absolument extraordinaire, parce que à Sydney, on était quasiment en full capacité dans les cinémas. Mais dans le Victoria, la capacité était limitée à 75%, à Adélaïde à 50%, à Canberra à 60%, donc, et malgré ça, on a atteint des résultats fantastiques. Il y a eu un véritable engouement extrêmement fort de la part des Australiens, comme chaque année, pour le cinéma français. Et puis aujourd'hui, on est toujours le plus gros événement public australien de l'année 2021. Alors, il y en aura peut-être en fin d'année qui vont nous dépasser, mais pour l'instant, c'est vraiment depuis janvier le plus gros événement. Donc, on est extrêmement fiers, très reconnaissants vis-à-vis de la population australienne de nous suivre et d'aimer autant le cinéma français. Il y a eu des films qui ont fait des scores magnifiques. Je pense bien évidemment à Eiffel, mais aussi à Antoinette dans les Cévennes, à Delicious, à un film comme Arab Blues, pas prévu pour ça, parce que c'était quand même un film un peu plus de niche, a vraiment très très bien fonctionné, et les Australiens sont rendus en masse au cinéma. Donc on est vraiment très très heureux.
Ok, donc grand succès pour cette édition du festival, avec une fréquentation très élevée malgré les contraintes ici et là. C'est maintenant terminé, mais je crois que, enfin, en tout cas à Sydney, vous restez un petit peu dans le thème, puisque vous organisez une table ronde sur les femmes et le cinéma.
Fin mai, on va organiser une table ronde entre des professionnels du cinéma française et australienne, pour parler en fait des différences dans l'industrie du cinéma, ou des différences et des ressemblances, hein, entre la France et l'Australie. Donc on aura le plaisir d'accueillir Michèle Royer, qui est la directrice de la chaire de culture française à Sydney University, et qui est aussi une spécialiste du cinéma, et puis deux productrices australiennes qui ont également travaillé en France. Je pense notamment à Rachel Hawkins, qui a été longtemps chez Canal+ en Angleterre et Studio Canal en France et qui maintenant est productrice ici. Et Greer aussi, qui est une productrice qui a produit énormément de grands succès de télévision et cinéma en Australie et qui connaît très bien le marché. Et c'est plus une discussion sur, non pas les femmes dans le cinéma en tant qu'actrice ou rôle, mais vraiment comment les femmes travaillent dans le milieu du cinéma et comment on peut améliorer encore la proportion de femmes réalisatrices, productrices, etc. dans l'industrie du cinéma. On n'a pas encore fixé la date exacte, mais ce sera fin mai et vous pouvez aller sur le site internet de l'Alliance française pour connaître la date exacte, puis ça va être annoncé par nos réseaux sociaux, nos newsletters, etc.
Dernière petite actu à venir chez vous, un événement autour du peintre Toulouse-Lautrec.
Il se trouve que en fait on va faire des travaux sur la façade de l'Alliance et que donc il va y avoir tout un échafaudage qui va être installé. Nous allons reproduire des œuvres de donc Jasper Knight sur ces échafaudages. Et ce sont des œuvres qui sont effectivement inspirées et qui réinventent un peu, ou très inspirées par Toulouse-Lautrec, par la vie à la belle époque, par les danseuses de French Cancan. Et c'est un travail très intéressant qui nous intéresse parce que c'est la vocation de l'Alliance française aussi de montrer les chemins qu'il peut y avoir culturels entre la France et l'Australie. Et donc, à partir de ces toiles qui vont être donc visibles par tout le monde à Clarence Street, on va organiser une conférence qui aura lieu début juin avec Jasper Knight, bien évidemment, qui sera présent et qui expliquera les correspondances et qui parlera de son art et de son dessin. Vous pouvez d'ailleurs voir les images de Jasper Knight, les peintures sur le site de la galerie Shalk Horses, et vous découvrirez ces peintures qui sont vraiment vraiment très intéressantes.
Et pour ce qui est de votre façade, elle sera recouverte à partir de quand? Vous savez déjà quand débutent les travaux et pour combien de temps ça va être exposé?
Ça va être exposé, on espère que les peintures seront mises à partir d'ici une dizaine de jours, donc vers le 20 mai, et pour une durée de 2 mois. Vous pourrez bien évidemment venir à l'Alliance, profiter de la médiathèque, qui réouvre aujourd'hui quasiment tous les jours et de l'ensemble des services de l'Alliance.
Très bien. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Monsieur Osterman, et à très bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'est ta langue de bois, moi ma langue de cœur, c'est tout, mais pas toi.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur cette ambiance un peu brésilienne organisée par Princesse Erika et Didier Sustrac sur un morceau qui s'appelle Langue de bois. Nous, on se retrouve dès samedi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et puis d'ici là, vous pouvez continuer à écouter SBS French en podcast sur notre appli SBS Radio ou bien en vous abonnant à notre chaîne sur Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Passez une excellente après-midi et à très bientôt.
C'est ta langue de bois. Moi, ma langue de cœur, c'est tout, mais pas toi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.